Chapitre 65. Septembre 2000. Lundi matin. Nina a 2 semaines devant elle. Emmanuel vient de partir avec une grosse valise. De quoi se retourner. Alléluia. La cuisinière est en congé, partie en voyage organisé sur l'île de Madère. Le rêve et la réalité se synchronisent. Alléluia. 10 heures de décalage horaire entre la France et l'Australie. 20 heures d'avion vont la séparer d'Emmanuel. Il va décoller en fin de soirée à Paris, 2 jours sans qu'il puisse lui téléphoner. Emmanuel n'avait pas bougé depuis novembre dernier, ne lui laissant aucun espace de liberté. Impossible qu'il rentre à la maison et qu'elle ne soit pas là, sinon s'en suivait toujours le même refrain. Tu étais où? Avec qui? Pourquoi? Je me faisais un sang d'encre? Ça sert à quoi que je t'offre un téléphone portable s'il est tout le temps éteint? Je t'aime. Il lui a annoncé son départ pour Sydney 2 jours avant de s'envoler. Mon amour, j'ai une mauvaise nouvelle. Je dois partir 15 jours. Je suis désolée. J'ai essayé d'annuler jusqu'au dernier moment, mais je peux pas faire autrement. Ça peut nous rapporter un contrat énorme. Ce qui m'ennuie, c'est que ça tombe pendant les congés de Nathalie. Ça me contrarie de te laisser toute seule. Nina a d'abord cru à un canular. Elle a vraiment pensé qu'il allait conclure sa longue tirade par un « Tada, je t'ai bien nue, mais non, je pars pas, on va rester ensemble, rien que tous les deux, ma petite femme et moi. Et cette fois, ça va marcher, on va l'avoir, notre enfant. » Mais lorsque Nina a vu le billet d'avion à l'intérieur du passeport posé sur le lit, à côté de la chemise qu'il venait de retirer, elle a réalisé que c'était vrai, qu'il allait partir. Ne pas montrer ma joie. Elle a écarquillé les yeux et lui a répondu le plus innocemment du monde. « Ne t'inquiète pas, mon amour, 15 jours, ça passe très vite. J'aurais quand même aimé que tu me supplies un peu de rester. » Il lui souriait, mi-amusé, mi-accusateur. Cet air de victime incomprise qu'il se donnait tout le temps. Et toujours sur le ton de la plaisanterie, afin de passer pour un mec cool. Une envie de le frapper, de plus en plus souvent. L'amour qu'elle avait ressenti pour lui s'était mué en dégoût. Pas une inimitié constante, mais intermittente. Des bouffées de haine qui montaient et pouvaient disparaître aussitôt ou s'installer longtemps, comme un poison dans les veines. Elle qui n'était qu'empathie et bienveillance se muait en sorcière. Elle devenait sa propre ennemie. Il lui arrivait d'imaginer le meurtre de son mari, le pousser dans les escaliers, le brûler vif, l'assommer, le mettre derrière le volant de sa bagnole de sport et le jeter du haut d'un ravin. Des scénarios hitchcockiens monstrueux qui la tétanisaient, surtout le matin au réveil, lorsqu'il la sautait avant de partir au travail. Vite fait, bien fait, histoire de planter sa petite graine. « Qu'il crève !» pensait-elle en fermant les yeux tandis qu'il la culbutait. Mais là, tout de suite, il ne fallait absolument pas qu'il change d'avis. Ce voyage en Australie était inespéré. La chance de ma vie. Elle l'a serré dans ses bras, a fermé les yeux, pensé à son grand-père, Étienne, Adrien, et a éclaté en sanglots en murmurant à l'oreille de son mari. Te voir partir m'anéantit, mais ne t'inquiète pas pour moi. Je sais à quel point tu te bats pour nous, pour la société. Je t'aime. Je suis si fière de toi. Puis elle s'est allongée sur le lit, convoquant toute sa douceur et sa docilité. Elle pensait souvent qu'il n'y avait aucune différence entre elle et une putain, si ce n'est que le client était chaque jour le même et qu'elle dormait dans des draps brodés aux écussons d'un domaine. On devient ce que l'on fait de nous et ce que l'on accepte. Nina retire Blanc d'Espagne de sa bibliothèque. Elle saisit les 3 dernières enveloppes du 11 août 1994, dont celle destinée à Étienne. Pourquoi la lui apporter à Lyon? Il ne lui parle plus depuis le nouvel an raté. Il lui en veut d'avoir préféré partir à l'île Maurice pour le passage à l'an 2000. En rentrant de son voyage, elle l'a appelé. Il n'a pas répondu. Elle lui a laissé un message vocal.
C'est moi. C'est Nina. Bonne année et bon siècle. Tu me manques. Je suis passée chez toi, mais ta mère m'a dit que tu venais de repartir. On se voit bientôt. Je t'aime fort. Et encore bonne année. Arrête les méchants voleurs et les vilains meurtriers.
Étienne lui a répondu 3 jours plus tard par SMS, des mots froids et détachés. Bonne année à la famille. Bise. La famille? Quelle famille? Celle des Damam? Dans le mot bise, elle lisait davantage les rafales de la colère d'Étienne que le moindre baiser. Comme lorsqu'il boudait, enfant. Elle décachète la première enveloppe, destinée à une certaine Julie Morera, et découvre une carte postale sur laquelle figure un dessin de Marsupilami. Ma Juju, j'ai quitté François. 2 ans avec un psychopathe. J'ai perdu les 100 kilos qui pesaient sur mon estomac. Je respire. J'ai l'impression que depuis que je suis partie, on m'a branchée à un masque à oxygène. Il était devenu tellement jaloux qu'il ne supportait même plus que l'ombre de quelqu'un me frôle. Que de temps perdu. Je regrette tellement si tu savais. Même si ça sert à rien. Je bouffe des sandwichs tous les jours et j'ai plus un copec, mais qu'est-ce que je m'en fous. J'ai hâte de te retrouver. La semaine prochaine, on sautera du 5 mètres à la piscine, comme quand on était môme, et on sucera des roux-doudous. Ça vaut mieux que des bites d'enfoiré. Gros bisous, ma poulette. Lolo. Nina lit et relit la carte postale. Les mots psychopathe et respire se mélangent dans son esprit. C'est comme si cette Lolo lui donnait le mode d'emploi d'un départ. C'est si simple en apparence, et ça a l'air si exaltant de partir, de quitter. Elle décachète la deuxième enveloppe, destinée à la DPA. Nina met du temps à réaliser qu'il s'agit du nom du refuge pour animaux de la Comelle. Elle n'y a jamais mis les pieds. Elle a toujours fui cet endroit, de peur d'être traumatisée. Elle se souvient du petit épagneul qu'ils avaient trouvé lorsqu'ils étaient encore 3. Du porte-à-porte pour identifier son éventuel propriétaire, de la soufflante de son grand-père quand il les a vus rentrer avec le chien dans les bras. Pas question de le garder. Les 2 garçons se sont chargés de l'emmener au refuge, tandis que Nina pleurait toutes les larmes de son corps. « Madame, monsieur, je tiens à vous signaler qu'un chien type Labrador Golden Retriever passe ses journées et ses nuits enfermés sur un balcon qui donne sur une cour intérieure privative. Il vit dans ses excréments, et je doute qu'il soit nourri régulièrement. Sa propriétaire s'absente très souvent. Pour vérification, l'adresse est la suivante. Christelle Baratier, 10 chemin des 100 pas, La Comelle. » La lettre n'est pas signée. Pas de nom d'expéditeur au dos de l'enveloppe. Est-ce une vengeance de la part d'un mécontent à cause d'un quelconque problème de voisinage ou une réelle dénonciation de maltraitance? Cette lettre a 6 ans. Que s'est-il passé depuis? L'animal a-t-il été retiré? Quoi qu'il en soit, il est sans doute mort aujourd'hui. Elle referme les 2 enveloppes sans aucune trace de déchirure. Elle remet la lettre destinée à Étienne d'Amblant d'Espagne et replace le roman entre les autres. Elle compose le 12 sur le clavier de son téléphone fixe. Une opératrice des renseignements lui répond aussitôt. « Bonjour, je voudrais le numéro de téléphone du théâtre des Abbesses. ABBE2SES. » Paris 18e arrondissement. Elle note le numéro, appelle le théâtre et réserve une place pour le lendemain soir. Comme c'est la première, toutes les bonnes places sont vendues. Il n'en reste que quelques-unes au fond. Ce n'est pas grave. Ce qui compte, c'est d'y être. Elle va découvrir « Des enfants en commun », la pièce écrite par Adrien. Elle va lui faire la surprise de débarquer sans prévenir. Tout à l'heure, elle ira acheter son billet de train à l'agence de voyage. Et elle attendra qu'il fasse nuit pour trouver les boîtes aux lettres de Julie Morera et de la DPA. Elle prend une douche en écoutant l'album d'Étienne Dao, « Corps et âme ». C'est Emmanuel qui le lui a offert en précisant « Un souvenir d'un concert qui n'a jamais eu lieu le soir où je t'ai embrassé pour la première fois ». Nina connaît les paroles de l'abbé par cœur. Cette chanson, c'est comme un voyage immobile. Elle suit la route qui longe la mer, celle décrite par le chanteur, le chemin de celui qui part. Elle sèche ses cheveux et commence à faire sa valise. Cette fois, elle s'en va. Lundi. Il est 9h ce même jour lorsqu'Étienne pénètre dans la Comelle. Il a rendez-vous avec Sébastien Laran, son ancien pote de collège devenu gendarme. Étienne a quitté Lyon à 6h. Il n'ira pas voir ses parents. Il n'a prévenu personne. Comme le jour où il est allé se recueillir sur la tombe de Joséphine. Il pense à Nina. Sans doute seule chez elle, à végéter dans son quotidien de femme mariée qui ne travaille pas. Il pourrait passer boire un café, lui faire la surprise, mais il n'en a pas la moindre envie. Ne pas avoir envie de voir Nina à ce point lui donne la nausée. Jamais il n'aurait cru cela possible. Il n'a toujours pas digéré le coup qu'elle lui a fait au Nouvel An. Partir au dernier moment, alors qu'ils devaient être tous ensemble. Il sait bien que ce n'est pas sa faute, que tout vient de son mari, mais elle aurait pu refuser. Étienne lui en veut de subir sans broncher ce que ce type lui impose. Ce matin, Étienne doit enfin rencontrer le témoin qui dit avoir vu Clotilde sur le quai de la gare le soir de sa disparition. Elle s'appelle Massima Santos. Sébastien Larrand lui a donné rendez-vous dans un bistrot, moins formel qu'à la gendarmerie, moins impressionnant aussi. Étienne a besoin de savoir ce que cette femme a vu et comment elle connaissait Clotilde. 6 ans après, de quoi se souviendra-t-elle ? Sébastien Larrand lui a envoyé la déposition de Massima par mail, une déposition enregistrée 5 jours après le supposé départ de Clotilde. Le 17 août 1994, Massima a fermé la mercerie où elle travaillait à 19h. Elle est rentrée chez elle pour préparer sa valise et remettre les clés à ses voisins, pour arroser ses fleurs et nourrir son chat. Puis elle s'est rendue à la gare à pied afin de prendre le dernier train pour Mâcon, celui de 22h17. Clotilde Marais était assise sur un banc, quai numéro 2, un sac de voyage à la main. Elle l'a saluée et est montée dans le train régional. A-t-elle vu Clotilde y monter aussi ? Impossible de l'affirmer. Quand Massima est revenue à la Comelle 5 jours plus tard, sa patronne lui a appris que Clotilde Marais faisait l'objet d'un signalement pour disparition inquiétante. Alors elle a appelé les gendarmes. Étienne pénètre dans le bistrot. Quelques hommes tapent le carton autour d'une table près de la fenêtre. Il lève à peine la tête à son arrivée. Sébastien est déjà là. Son képi sous le bras, il boit un café au bar en échangeant avec le propriétaire. Étienne connaît le type de vue. À la Comelle, tout le monde se connaît de vue. C'est la première fois qu'il entre dans le Troquet. C'est un endroit de vieux, un peu obscur, resté dans son jus depuis les années 50. Ici, ni jeux vidéo, ni musique rock. Étienne et Sébastien prennent tous deux place au fond de la salle. Ils commandent chacun un café et un verre d'eau. Ils ont un quart d'heure d'avance. Ils échangent sur leurs parcours respectifs. Sébastien est impressionné par celui d'Étienne. Lieutenant de police, ce n'est pas rien. C'est que le concours et les études sont sacrément difficiles. Puis ils en viennent à l'affaire. Avant de disparaître, Clotilde a travaillé comme serveuse, un job d'été. À l'époque, raconte Sébastien, j'étais encore étudiant. Mais les collègues qui ont procédé à l'enquête m'ont raconté que cette fille avait de sacrées sautes d'humeur. Ça, ils l'ont pas dit à la télé chez Pradel. C'est le patron de la pizzeria où elle travaillait qui nous l'a raconté. Les derniers jours, il paraît qu'elle regardait toujours vers l'extérieur, comme si elle attendait quelqu'un. Étienne encaisse, ne laisse transparaître aucune émotion. Il a appris à se maîtriser pour les oraux du concours. Poser un masque sur son visage, celui de l'écoute et de la réflexion. Clotilde n'est pas venue au rendez-vous ce soir-là. Alors je me suis tirée. Qui peut bien vous téléphoner régulièrement pour affirmer le contraire ? Sébastien fait une grimace. Des délations, on en a tout le temps. Un jour, pour être tranquille, il faudra que le pote chez qui tu as dormi ce soir-là témoigne à son tour. On ne sait jamais. On ne sait jamais quoi ? L'interrompt Étienne. À force, tu pourrais être emmerdé. La seule personne qui s'est manifestée après l'émission de TF1, c'est le type qui appelle régulièrement pour balancer ton nom. Qui peut t'en vouloir ? Mais quand il vous appelle, il ne m'accuse pas directement. Non, mais c'est tout comme. Il dit que vous étiez ensemble à l'étoile au lac ce soir-là et il raccroche. Quand Massima Santos pousse la porte, ils lèvent tous les deux la tête. Elle paraît intimidée. Peut-être pas une bonne idée ce lieu. Pas le genre à fréquenter les bistrots. Les joueurs qui ont à peine regardé Étienne lorsqu'il est entré posent leurs cartes sur le tapis vert comme s'ils étaient pris en faute. Ils la saluent tous d'un air penaud. Massima les gratifie d'un hochement de tête et commande un café crème comme si elle s'excusait d'être là. Elle aussi, Étienne la connaît de vue. Il se souvient de ses vêtements sombres, sa peau fine et claire, ses petits yeux noirs enfoncés et son crucifix en or autour du cou. Une femme maigre et qui claudique légèrement. Il a dû accompagner sa mère quelquefois à la mercerie ou la croiser, comme tous les autres habitants d'ici, sur les 4 trottoirs du centre-ville. Sébastien et Étienne se lèvent en même temps pour lui tendre une chaise sur laquelle elle prend place, mal à l'aise. Elle pose ses 2 mains blanches et maigres sur la table en formica. Étienne pense immédiatement à des pattes de poulet. Sébastien lui demande des nouvelles de sa santé et lui présente Étienne. Grand lieutenant de police à Lyon. Massima semble à la fois apeurée et impressionnée. Étienne la tranquillise immédiatement en mettant un maximum de douceur dans sa voix. Comme à chaque fois qu'il veut rassurer ou faire parler un témoin. Il se fend d'un large sourire bien que l'acidité dans son estomac lui fasse un mal de chien. Trop de café bu sur les aires d'autoroute entre Lyon et la Comelle, trop de nuits blanches, trop de cauchemars dans lesquels il voit Clotilde s'enfoncer dans une eau saumâtre. Je connaissais Clotilde Marais, commence Étienne. On sortait ensemble à un moment. Et le soir où vous l'avez aperçue à la gare, moi je l'attendais. Nous avions rendez-vous. Est-ce que vous pouvez me dire ce que vous avez vu exactement ? Eh bien, comme je l'ai dit, elle était à la gare, assise sur un banc. Était-elle seule ? Oui. En êtes-vous sûr ? Insiste Étienne sur un ton qui se fait réconfortant. Oui. Que faisait-elle ? Lisait-elle ? Écoutait-elle de la musique ? Portait-elle son casque de Walkman sur les oreilles ? Massima plisse les yeux en fouillant dans sa caboche. Non. Elle regardait droit devant elle. Avait-elle l'air contrariée ? Heureux ? Fatiguée ? Elle avait l'air d'attendre son train. Étienne se tait. Il réfléchit. Se repose les mêmes questions qui l'obsèdent et qui tournent en boucle depuis des années. Quelle heure était-il lorsque Clotilde l'a retrouvée au lac ? A-t-elle eu le temps de repartir à la gare ? Comment ? Qui était dans cette voiture qu'il a vue couler dans le lac ? L'a-t-il vraiment vue ? Il avait beaucoup bu ce soir-là. Massima touille son café au lait en fixant l'intérieur de sa tasse. Étienne sait que nombre de témoignages ne valent rien. Les gens oublient, se trompent, confondent. Ils sont pétris de certitudes et ne sont pas physionomistes. Ils ne pensent qu'à eux et font si peu de cas des autres. Il est facile de leur retourner le cerveau en trois coups de cuillère à peau. Les portraits robots en sont la preuve irréfutable. Combien de fois a-t-il recherché le mauvais individu tant on l'avait mis sur une fausse piste ? Il était blond. Vous êtes sûr ? Oui, sûr et certain. Mais quelqu'un a vu un homme brun qui semble correspondre. Regardez cette photo. Ah oui, peut-être. Il faisait nuit. Combien de fois a-t-il entendu cela ? Il faisait nuit. Étienne réprime immédiatement deux questions que les gendarmes n'ont sans doute jamais posées à Massima Santos, pensant à une banale fugue d'adolescente. Est-ce qu'il faisait nuit lorsque vous dites avoir reconnu Clotilde à la gare ? Et portez-vous des lunettes de vue ? Le soleil doit commencer à se coucher vers 21h au mois d'août. Donc après 22h, il fait nuit, pense Étienne. La vieille n'a pas dû voir Clotilde clairement. Il y a des lumières sur un quai de gare. Et moi, quand je me suis réveillée, quand j'ai vu la voiture s'enfoncer dans l'eau, il faisait déjà sombre. Il devait être plus de 21h30. Étienne observe à nouveau Massima. Elle doit avoir la bonne soixantaine. Elle avait donc plus de 55 ans en août 1994. Qui a encore une excellente vue à cet âge-là ? Si dans le cas présent, le témoignage de Massima le dédouane de la moindre responsabilité, Étienne veut savoir si la vieille bigote se trompe ou dit vrai. Lui vient alors une autre idée. Qui, en 1994, à la Comelle, pouvait ressembler à Clotilde ? Même physionomie, même allure, grande et les cheveux blonds ? Plusieurs filles, forcément. Clotilde avait-elle un signe particulier ? Rien que d'y penser, Étienne encaisse une violente douleur à l'estomac. Comme un coup de barre de fer dans le ventre. Ses souvenirs se penchent sur le visage de Clotilde, cherchent un grain de beauté, un tatouage, une tache de naissance. Rien. La police. Il évite de penser à son ventre. Sébastien le sort de ses ruminations. « Comment connaissiez-vous Clotilde Marais ? » demande-t-il à Massima. « Elle venait au magasin avec sa mère quand elle était ch'tite, et des fois toute seule. Elle faisait de la couture. Étienne intervient sans le vouloir. On ne peut pas tout maîtriser. Vous devez confondre. C'était pas le genre de fille à coudre. La femme le toise. Si, elle faisait même ses chemises toute seule. Des jolis modèles. Ma patronne lui disait toujours de se mettre à son compte. Qu'elle ferait un malheur. Oui, elle lui disait ça. Un malheur. Et quel malheur, pense Étienne. La plupart du temps, il se retrouvait chez lui. Très rarement chez elle. Il ne se souvient pas avoir vu de machine à coudre dans sa chambre ou dans une autre pièce. Et jamais elle ne lui a parlé de fringues ou de couture. Elle était féminine, mais plutôt sportwear. Étienne tente de se rappeler son bac, ses options. Elle devait partir à Dijon pour passer une licence de sport, pas pour devenir styliste ou ce genre de truc. On va vérifier chez ses parents s'il y a une machine à coudre, dit Sébastien en levant la main en direction du serveur. Vous voulez boire autre chose ? Non, merci. Mais qu'est-ce que tu fais ? S'interroge Étienne. Tu es en train de t'enfoncer. Si le témoignage de cette femme s'effondre, tous les regards vont se retourner vers toi. Surtout ceux des parents de Clotilde. Les autres, ça les arrange de croire qu'elle est partie vivre sa vie quelque part. Mais pas ses parents. Et puis qui appelle la gendarmerie pour dire que j'étais avec elle au lac ce soir-là ? Il est peut-être temps de demander un coup de main à Adrien. Adrien ouvre les yeux. Comment va-t-il s'habiller pour passer à l'émission Vol de nuit ? C'est la première question qu'il se pose. Hier soir, c'était la générale de Des enfants en commun. Adrien en a encore des étoiles plein la tête. Le tout Paris debout à applaudir. Comédien, auteur, journaliste, de ceux qui passent à la télévision ou écrivent dans des hebdos et mensuels en pointe. Adrien ne se lasse pas de lire les bonnes critiques qui pleuvent sur lui depuis sa pièce Les Mères. Il espère que le père Pi les lit lui aussi. Mais non, quelle idée étrange. Le père Pi appartient à une autre vie. Adrien Bobin, le petit prince. Adrien Bobin nous épate, une langue majestueuse et fluide qui nous va droit au cœur. Il y a du Shakespeare chez le jeune Bobin. L'événement Adrien Bobin. Adrien Bobin dépoussière le théâtre contemporain. Il lit et relit ses titres en boucle, ne touche plus vraiment terre. Il collectionne les magazines culturels dans lesquels il apparaît, entretient son jardin secret. Y a-t-il quelqu'un qui partage votre vie ? Oui, mais je ne vous dirai rien. Dans la rue, on commence à le reconnaître, surtout les étudiants et comédiens en herbe. Thierry Ardisson était présent à la générale pour préparer Tout le monde en parle, l'émission la plus regardée du PAF et à laquelle les trois principaux acteurs vont participer. Patrick Poivre d'Arvor, qui a adoré la pièce, prévoit lui aussi un vol de nuit sur les dramaturges. Il souhaite inviter Adrien sur son plateau avec d'autres auteurs de théâtre pour échanger autour de leurs différents registres. Comment va-t-on vers l'écriture ? Pourquoi le théâtre ? Quelle est la part de fiction et de vécu ? Pensez-vous à un acteur ou une actrice pour vous inspirer ? Comment apparaissent les scènes dans votre imaginaire ? Que ressentez-vous lorsque vous découvrez vos mots dans la bouche des tragédiens ? Lorsqu'on lui dit « Vos parents doivent être fiers », il prend une mine désolée et répond, un mouchoir sur la bouche, « Maman est morte », sans rien ajouter. Les gens n'insistent pas, n'osent pas poser de questions à propos du père. Surtout ceux qui ont vu Des enfants en commun en avant-première. Adrien n'a pas pris de nouvelles de Sylvain Bobin depuis plusieurs mois. Pourquoi faire ? Déjeuner dans une brasserie puant la frite et la sauce madère en regardant les mouches voler ? Débiter des banalités pour meubler ? Supporter le regard morne et vide de son géniteur sur lui ? Demain soir, c'est la première de Des enfants en commun. Il faudra se confronter au vrai public. Adrien n'a invité personne. Ni son père, ni sa belle-mère et encore moins ses demi-frères. Il s'est servi d'eux, de cette manière dramatique, pour tisser son intrigue. Fin de l'histoire. L'attaché de presse lui a demandé s'il souhaitait solliciter des proches. Adrien lui a répondu qu'il les avait perdus. Il aurait pu inviter Louise, mais cela signifiait aussi convier Étienne. Étienne au théâtre ? Quelle incongruité ! Quant à Nina, elle ne se déplace pas sans son playboy, qui jamais ne viendrait assister à une de ses pièces. Adrien n'a même pas essayé de leur proposer. Il s'empêche de penser à Nina, sinon il ressent un malaise. Le sentiment de l'avoir abandonnée malgré sa promesse. Pour toi, nous aurons toujours une voiture neuve avec le plein d'essence. Et toujours cette rengaine qui remonte à la surface. Il n'y a pas d'amour, il n'y a que des preuves d'amour. Il s'empêche de penser qu'il aurait peut-être dû se bouger. Et il finit par se dire que chacun a sa vie, qu'il est impossible de sauver le monde entier, que c'est aussi aux gens de se sauver. D'accord, mais Nina, ce n'est pas les gens. En même temps, combien de fois lui a-t-il proposé de venir vivre avec lui chez Thérèse Lepic ? Et la dame qui te logeait quand tu es arrivée à Paris, tu as des nouvelles ? Lui a demandé des érables, un soir qu'ils dînaient tous deux à l'Arpège pour fêter ses succès et enterrer définitivement l'espoir d'un deuxième roman. Elle radote. Lui a répondu Adrien sèchement. mais porté par le vin délicieux qu'il savourait depuis le début du repas, l'éditeur s'est enhardi. Il ne s'était jamais risqué à évoquer la vie privée d'Adrien, garder une certaine réserve vis-à-vis du mystère Sacha Laurent, le pseudonyme d'Adrien. Et les gens dont tu parles dans Blanc d'Espagne, ils l'ont lu ? Blanc d'Espagne est une fiction. Désérable l'a dévisagé. Et pour la première fois, il a osé un « je ne pense pas ». Adrien a rougi en portant un Montrachet 1984 à ses lèvres. « Pense ce que tu veux ». Adrien est toujours allongé sur son lit. Il doit être environ 9h, à en croire la lumière extérieure qui filtre à travers les stores et les bruits de la rue. Aujourd'hui, il est libre. Il va sans doute aller au cinéma. Il aime les séances de fin de matinée. Il n'a pas encore vu Harry, un ami qui vous veut du bien. Depuis quelques mois, il ne parvient plus à écrire comme avant. À présent, il se regarde et s'entend chercher de belles phrases. En voulant épater la galerie, il a conscience de perdre toute sincérité. Écrire Blanc d'Espagne a été une nécessité. Aujourd'hui, écrire signifie briller aux yeux des autres, plus sauver sa vie. Et là où il prenait un plaisir immense, ne subsiste qu'une corvée. Ça doit être la fatigue. Il n'a pas arrêté depuis qu'il vit à Paris. 6 ans déjà. Comme le temps passe, il pense à Louise et Étienne. Il aime les voir à la Comelle, pas à Paris. L'idée de les retrouver gare de Lyon lui déplaît. Il est déjà allé y chercher Louise. Dès qu'il la voit apparaître au bout du quai, il est mal à l'aise. Il a le sentiment terrible de ne pas savoir quoi en faire. Il la promène comme une touriste de restaurant en musée. Il se fait l'effet d'un monstre à sang-froid, et lorsqu'elle repart, il est soulagé.